En fait, après avoir vécu cette violence physique de la part des gardiens, j'avais peur. Et en fait, quand je voyais ces mêmes gardiens arriver, la peur me prenait. J'avais peur de ces personnes-là, j'avais peur des gardiens en général, mais j'avais peur aussi de ces personnes-là. Et en fait, ça j'ai réussi à m'en évader, par exemple, en me renforçant moi-même, à travers tous ces petites étapes, en fait, vraiment étape après étape, en regagnant de la confiance, je me suis évadé de cette peur. J'ai réussi à la surmonter, dans le sens où après, et voilà, en fait, j'avais conscience que je pouvais revivre de la violence physique, mais je n'interagissais plus avec les gardiens ou les gardiennes sur une base qui provenait de cette peur.
L'évasion, on l'associe souvent au rêve, au voyage ou à un slogan marketing. Pour nous, c'est avant tout un processus d'émancipation. Comment peut-on s'évader d'une institution? S'évader des normes et constructions sociales, de nos croyances ou de nos peurs? Nous avons rencontré des personnes qui ont partagé avec nous leurs expériences d'évasion. Nous, c'est Laure, musicienne et raconteuse d'histoires, Jill, artiste sonore, et le projet Évasion, réseau de création et diffusion de contenus anarchistes et émancipateurs. Bienvenue sur Les Étoffes. Dans cet épisode, nous vous partageons l'histoire de Sacha qui a vécu une expérience d'incarcération.
C'était plus un contrôle sur ma propre capacité à choisir mon temps que vraiment sur le temps lui-même. Mais c'était en réaction à remarquer que c'était très très inhabituel et inconfortable pour moi de remarquer que j'ai, durant toute une journée, donc durant 24 heures, j'ai pas l'emprise sur mon emploi du temps, sur mon programme. Je peux pas décider. Enfin, décider quand je dors, ça va dépendre de quand est-ce que la lumière sera allumée dans ma cellule ou pas, et c'est pas forcément moi qui décide. Décider quelle activité je fais, enfin. Ça va dépendre aussi, parce qu'à chaque moment, cette activité elle peut être interrompue, parce qu'on vient me chercher pour un interrogatoire, ou parce qu'on m'amène en promenade, ou parce qu'on m'amène les repas. Et du coup, ouais, c'était remarquer ça, en fait, que j'étais dépossédé de quasiment tout à travers la prison. Et du coup, pour compenser ça, une stratégie un peu de pour d'évasion, quoi, pour m'évader de cette contrainte-là, c'était effectivement de me dire. Le matin, quand je me réveillais, de me fixer des objectifs dans la journée, de me dire bah, aujourd'hui je vais faire 2 heures de sport, je vais écrire pendant 1 heure des lettres à des gens, je vais prendre 1 heure de temps, je vais réfléchir à ma situation, à mes émotions, etc. Et après, donc, de me fixer plutôt des petits objectifs que je pouvais être assez sûr de réaliser. Et après de tenir ça, et donc en fait si après 30 minutes de sport, on vient m'interrompre pour m'amener à un interrogatoire, bah tant pis, je sais que j'ai fait 30 minutes, et après, quand je serai de retour dans la cellule, je vais continuer jusqu'à 2 heures. Et donc vraiment qu'à la fin de la journée, je puisse me donner le sentiment que j'ai pas été ballotté comme un bout de bois sur l'eau durant la journée, mais que j'ai quand même moi eu un pouvoir de décision. Quand même, à une petite échelle, ça a contribué à me redonner ce que j'avais complètement perdu au début de la prison, c'est-à-dire le sentiment que je contrôle ma vie. En fait, j'avais été changé de cellule. J'étais sorti d'une cellule où j'avais pas de fenêtre. Enfin, j'avais une fenêtre, mais qui était scellée, donc il y avait le store qui était tout le temps descendu et moi je pouvais pas le lever. Et j'avais été transféré dans une autre cellule, un étage plus haut. Et là, tout d'un coup, il y avait cette radio. Ça captait le programme local. Donc moi, je comprenais rien parce que je parlais pas du tout la langue de l'endroit, du pays où j'étais emprisonné. Mais j'ai même appris après coup qu'en fait, il y avait une radio locale qui faisait spécifiquement, genre, je crois tous les après-midi, une émission radio pour les gens en prison, adressée aux personnes en prison et notamment où les proches pouvaient transmettre des messages. J'ai beaucoup zappé entre les différentes radios pour essayer d'avoir de la musique que je trouvais chouette. Mais en fait, même si je serais tombé sur cette radio, j'aurais pas du tout compris parce que justement, je comprenais rien à la langue. Donc voilà. Ça a amené plusieurs choses, mais tout d'un coup, il y avait de nouveau une présence d'arrière-fond. J'étais moins confronté qu'à moi-même, comme j'étais avant aussi, parce que Après, quand j'ai eu la, je crois un jour avant la radio, j'ai reçu du papier et un stylo. Donc là aussi, j'ai pu commencer à écrire. Enfin, mais avant ça, j'avais rien. Enfin, j'avais vraiment rien. J'étais face à moi-même. J'étais dans une petite pièce en béton. Pendant plusieurs jours, j'avais pas de fenêtre. J'avais même pas mes lunettes. J'avais rien à lire. Enfin, j'avais littéralement aucune activité à faire si ce n'était du sport et dormir. Et du coup, c'était aussi assez anxiogène dans le sens de vraiment me retrouver face à moi-même, sans l'avoir décidé et un peu sans pouvoir m'échapper de moi-même. Et tout d'un coup, cette radio, ça a contrebalancé ça parce que j'avais une radio en arrière-fond. J'ai reçu des lettres. Oui. Et je pense que ça, honnêtement, durant mon petit séjour là en prison, je pense que c'était vraiment la plus grande source d'évasion, c'était les lettres. C'était vraiment ce qui me connectait à l'extérieur, ce qui m'amenait de la force, parce que je savais qu'il y avait des gens à l'extérieur de la prison pour qui je comptais, qui se souciaient de moi, qui étaient proches de moi, et ça me donnait beaucoup de force. Et cette force-là, en fait, c'est bêtement une capacité d'évasion, parce que c'est aussi cette force qui me permettait après de dire non à certaines injonctions ou contraintes de l'administration pénitentiaire, mais aussi de reprendre confiance en moi. Mais ça m'évadait aussi vraiment juste dans le moment, quoi. Le moment où j'ouvre la lettre et je lis, c'est un moment de pause complète dans ma tête par rapport à... Je suis plus complètement dans la prison. Ouais, ça crée vraiment une pause avec la sensation d'être physiquement emprisonné, d'être à la merci des gardiens et de l'administration. Mais je recevais... Enfin, du coup, et du coup, oui, j'ai reçu beaucoup de lettres. J'ai reçu vraiment beaucoup de lettres. De beaucoup de gens aussi, beaucoup de gens que je connaissais pas. J'ai eu justement la chance d'avoir que mon cas a été politisé, c'est-à-dire a été porté par tout un environnement politique anarchiste extérieur à la prison, qui a transmis les informations qui me concernaient, enfin qui l'adresse où m'écrire, etc. Du coup, j'ai eu pas mal de soutien comme ça par lettre, et ça représente, je pense que c'est vraiment ça représentait énormément pour moi. Mais c'était donné aussi très un peu irrégulièrement. Des fois, je recevais 10 lettres en même temps de plusieurs jours, et puis les autres jours plus. Et ça, c'est vraiment propre à la logique carcérale, mais en fait, chaque un peu faveur entre guillemets qu'on te fait, tu sais qu'elle pourra être utilisée contre toi comme moyen de pression. Et j'avais conscience de ça aussi par rapport aux lettres, qu'en fait, suivant où allait m'amener mon parcours en prison, quel type de résistance j'allais faire ou quoi, ben, ce serait une possibilité qu'on me renlève les lettres comme ce que j'avais du coup au début. Au début, il faut vraiment montrer tout le potentiel de violence que possède la prison, parce que après, c'est un moyen de pression, justement. Chaque truc que tu vas recevoir, comme moi j'ai reçu cette radio, après j'ai reçu des lettres, des livres, tout ça, ben, c'est ça. Donc les carottes que tu reçois se transforment très rapidement en bâtons à nouveau. Et du coup, tu dois pouvoir mesurer le risque que tu prends de t'opposer à l'administration pénitentiaire et de perdre ça en ayant déjà connaissance de comme ce moment-là a été horrible. Et puisque c'est le moment où on te montre la violence carcérale dans sa plus grande force, c'est le moment qui est au début, c'est aussi le moment où émotionnellement t'es le plus fragile, parce que tu arrives dans un environnement complètement hostile que tu connais pas, t'es face à une violence qui est du coup la violence de la prison que tu connais pas, sauf si t'as déjà été en prison, mais en tout cas c'était pas mon cas, et du coup je pense que c'était là où on pouvait m'impacter le plus aussi à travers ces coups de bâton, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, un peu dans ce ping-pong entre évasion et emprisonnement, je crois que j'ai vraiment passé. J'ai fait une espèce de courbe elliptique comme ça. Dans le sens où, au début, quand je suis arrivé, j'ai senti comme ça toute cette violence carcérale. J'ai vécu de la violence physique, quand même assez, assez intense, en tout cas pour moi, à mon niveau. Enfin, la violence matérielle, justement, dans le sens où j'ai été battu et déshabillé de force et emprisonné sans les médicaments que j'ai besoin pour ma maladie chronique, sans lunettes, sans habits, dans une cellule en béton froide, sans couverture, sans fenêtre, quoi, vraiment sans rien. Et donc c'est une violence qui est très matérielle, mais que j'ai ressentie très très profondément, et qui s'est amplifiée dans les jours où en fait ça a continué, parce qu'au début je me disais ça va pas durer longtemps, et au bout d'un moment je commençais à me dire ah ouais, là j'aurais cru que c'était déjà fini, en fait ça continue, etc. Et j'ai vraiment donc la violence qui a créé l'emprisonnement m'a vraiment poussé jusqu'au moment où je voulais plus m'évader. Je cherchais plus dans le sens m'évader, dans le sens résister à ces contraintes. Et j'ai vraiment eu le moment où je me souviens exactement de ce moment où dans ma tête, la pensée s'est formulée de « Ah ok, là, j'arrive à ma limite, je renonce à tout ce qui est important pour moi si ça peut m'attirer une conséquence négative par rapport au système. Donc j'arrête de lutter pour ce qui m'importe. » Si c'est illégal, quoi, ou si je prends un risque de répression. Et donc vraiment, maintenant, je me conforme à la prison. Et quand je sors, j'arrête toute activité politique, j'arrête un peu tout. Ou alors vraiment des trucs très très éloignés où je prends pas de risque, comme écrire des textes, par exemple, ou je sais pas. Et ça, moi, maintenant, avec le recul, je le vois vraiment comme le moment où j'ai renoncé à chercher à m'évader. Que ce soit physiquement, mais aussi que ce soit juste mentalement, de me fortifier, de résister à la contrainte. À ce moment-là, je voulais plus résister à la contrainte, je voulais m'adapter le plus que je pouvais aux injonctions extérieures pour que je n'ai plus jamais à subir cette contrainte. Et là, j'avais l'impression d'avoir vraiment touché le fond. Et bah, finalement, comme quand on touche le fond, la plupart du temps, après on remonte, bah, moi aussi, j'ai remonté. Et jusqu'à, oui, après plein de trucs comme cette tentative assez désespérée et ratée d'évasion physique, ou lors d'un transfert de tribunal jusqu'à la prison où j'allais rester après, la voiture de police, qui était une voiture du coup banalisée, donc une voiture en civil, s'est arrêtée dans les embouteillages sur l'autoroute, et moi j'étais à l'arrière, et tout d'un coup dans ma tête vraiment il y a une espèce de court-circuit comme ça, plus émotionnel que réfléchi, où je me suis juste dit mais en fait je peux pas les laisser m'amener dans une prison si j'ai moyen de faire autrement, donc en fait juste je vais ouvrir la porte et partir en courant sur cette autoroute, vraiment le truc totalement instinctif, sans aucun plan, sans aucune réflexion. Et bon, après du coup j'ai enlevé ma ceinture. Et dans le même mouvement, voulu ouvrir la porte, qui évidemment c'était pas ouverte, parce que c'est quand même une voiture de police spéciale pour le transfert des personnes prisonnières. Et donc voilà, et un petit moment de blanc comme ça, où les deux flics qui étaient à l'avant de la voiture se sont un peu tournés vers moi, m'ont regardé un peu avec condescendance. J'ai rien dit, j'ai remis ma ceinture, eux ils ont rien dit, la voiture a continué, voilà. C'était après avec recul très comique. Ça m'a quand même montré que je remontais vers que je ressortais justement de ce gouffre d'annihilation comme ça que j'avais vécu au début, parce que j'avais quand même eu l'instinct de tenter ce moment d'évasion, quoi. Ça a été gravé dans ma mémoire, ces quelques petites minutes de liberté où j'aurais couru sur l'autoroute avant de me faire plaquer au sol par les policiers qui me courent après. Mais ça aurait été probablement un beau moment, ouais. J'ai en mémoire deux moments comme ça d'évasion concrète et matérielle qui ont réussi. Et le premier, c'était donc chez la psychologue de l'administration pénitentiaire, que j'ai vu plusieurs fois parce qu'il voulait me faire passer un test psychologique comme à tous les détenus. Et la première fois que j'étais convoqué chez ces psychologues et que j'étais dans son bureau et que j'ai refusé de répondre de participer à cette évaluation psychologique, la psychologue est sortie de son bureau pour aller demander conseil, je pense. Ça devait pas être courant ou je sais pas. Et c'était très court comme moment parce que en fait c'était vraiment genre le bureau d'à côté. Mais ça m'a permis quand même de lui voler quoi dans son bureau. Plein de petits trucs qui ont une importance finalement assez minime parce que c'était genre des stylos, alors que bon, j'avais déjà un crayon, mais là du coup maintenant j'avais un stylo, des petits sachets de sucre, des sachets pour le thé, des sachets de thé, des petits biscuits. Et du coup, et voilà, c'était vraiment pas. Et une vis. Puis je me souviens, j'avais cette vis. Et après, j'ai toujours gardé cette vis. Puis en fait, les cellules étaient fouillées quand même quelques fois. Et ma cellule aussi, notamment, a été fouillée plusieurs fois. Et c'était toujours des annonces comme ça, surprises un peu. Et moi, je me souviens, j'avais toujours ce truc. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire avec cette vis, par exemple. Mais ça représentait pour moi un challenge de garder cette vis. C'était un challenge de résistance. C'était vraiment genre, je veux garder cette vis parce que, genre, en vrai, j'ai pas le droit de l'avoir. Et qui sait, en fait, ça me donne un petit bonus, quoi. Un jour, peut-être, j'ai pas utilisé cette vis. Et bon, j'ai jamais utilisé finalement, mais ils n'ont jamais trouvé. Et j'en retirais de la fierté. Et notamment, justement, une deuxième un peu en tourloupe comme ça, avec succès, c'est qu'ont toujours ces mêmes psychologues, où je refusais encore de répondre à leurs questions. J'ai quand même un peu parlé avec la psychologue, notamment de ma maladie, justement de cette maladie chronique que j'ai, et en inventant un peu des trucs et des problèmes potentiels, et en fait jusqu'à arriver à lui dire qu'en fait j'avais besoin de types de médicaments hyper spécifiques que on trouvait pas dans ce pays-là. Par contre, des gens avec qui moi j'étais venu dans ce pays qui étaient à l'extérieur possédaient, et il fallait vraiment que ces personnes m'amènent ça. Et en fait, ça a marché. Et du coup, j'ai pu faire un appel téléphonique à une des personnes que je connaissais, alors que j'avais jamais pu faire d'appel téléphonique. Enfin, de tout mon séjour en prison, j'ai jamais pu faire aucun appel téléphonique. Et là, ça, au niveau de l'évasion, c'était fou parce que tout d'un coup, c'était court parce qu'assez vite, ils se sont rendus compte que quand même, c'était. Je demandais pas de ça. Enfin, d'ailleurs, il m'avait dit de parler que anglais. Et moi, j'ai pas parlé anglais, j'ai parlé français. Mais en fait, néanmoins, et voilà, c'était donc un numéro que je connaissais par cœur, c'est une personne avec qui j'étais très très proche, qui était à l'extérieur, et en fait, qui a heureusement répondu au téléphone, genre, et quand j'ai pu l'appeler, c'était fou, tout d'un coup, j'ai entendu sa voix, elle a entendu ma voix, et c'était vraiment genre un grand, et après, je me souviens de ce moment où, du coup, j'avais ce téléphone, moi, je parlais hyper vite, parce que j'avais bien conscience que ça allait pas durer longtemps, et du coup, je parlais vraiment très très vite, et j'essayais de dire tout plein d'informations en même temps, de pas s'inquiéter pour moi, de comment j'allais, de prendre soin des gens qui étaient dehors, etc. Et en fait, je me souviens du coup la psychologue qui me dit une fois, deux fois de parler en anglais, trois fois qui commence à se lever. Alors moi je me lève aussi, et après c'est vraiment de ces téléphones fixes avec un câble un peu enroulé comme ça. Et du coup moi je commence à m'éloigner de la psychologue qui vient vers moi, et après je bouge un peu tout en continuant à parler comme ça. Ça devait être assez fou pour la personne qui m'entendait parce que je pense que tout n'était pas hyper compréhensible, mais c'était. Et finalement voilà jusqu'à ce qu'on m'enlève le téléphone. Des mains et tout, et qu'on me fusille du regard et qu'on me menace de représailles matérielles qui après il n'y a jamais eu finalement. En fait, après avoir vécu cette violence physique de la part des gardiens, j'avais peur. Et en fait, quand je voyais ces mêmes gardiens arriver, la peur me prenait. J'avais peur de ces personnes-là. J'avais peur des gardiens en général, mais j'avais peur aussi de ces personnes-là. Et en fait, ça, j'ai réussi à m'en évader, par exemple, en me renforçant moi-même à travers tous ces petites étapes, en fait, vraiment étape après étape, en regagnant de la confiance. Je me suis évadé de cette peur. J'ai réussi à la surmonter dans le sens où après, et voilà, en fait, j'avais conscience que je pouvais revivre de la violence physique, mais je n'interagissais plus avec les gardiens ou les gardiennes sur une base qui provenait de cette peur. Je leur disais non, j'étais pas forcément amical, enfin je leur résistais, je refusais par exemple de nouveau ces entretiens avec les psychologues. C'est quelque chose que j'ai toujours tenu, que j'ai jamais fait, mais il y a eu d'autres types de contraintes aussi, comme par exemple le travail où un jour théoriquement j'aurais dû aller, en tout cas l'administration voulait ça que j'aille travailler dans un des. Je sais même pas vraiment où, mais c'est aussi quelque chose que j'ai refusé, ou j'ai reçu des menaces, mais que j'ai tenu, et je pense que ça j'aurais pas pu faire. J'aurais pas pu faire si j'avais pas réussi à sortir de cette peur. Quelque chose qui a joué un rôle pour moi là-dedans, ça a été mon contact avec d'autres détenus. Où vraiment là, tout d'un coup, ça m'a amené une grande force, quoi. Et du coup, et à travers cette force, une grande capacité de résistance. Et je m'attendais pas vraiment, enfin, je m'attendais de toute façon pas à trop avoir d'autres détenus. Mais finalement, quand j'ai été déplacé, amené dans ce qu'on appelait là un quartier ouvert, c'est-à-dire en fait j'avais toujours une cellule individuelle, isolée, mais je crois que c'était 5 heures par jour, toutes les cellules de tout l'étage s'ouvraient et il y avait plus ou moins 30 personnes qui étaient, du coup, qui sortaient des cellules, qui avaient des espaces communs, soit pour faire du sport, soit pour juste jouer aux échecs ou jouer aux cartes ou juste se marcher dans les couloirs. Et donc là, ça a vraiment été. Il y a vraiment un avant et un après, je pense, dans mon parcours de prison avec ça, parce que là, tout d'un coup, il y avait plein de gens et avec des attitudes très solidaires, quoi, qui venaient vraiment. Qui venaient me demander comment ça allait, qui venaient aussi me donner des informations que j'ai jamais eues à travers l'administration carcérale, notamment comment acheter des timbres, comment utiliser l'argent que m'amenaient les gens pour leur m'acheter des pommes ou de la nourriture, ou genre des trucs qui sont tout bêtes, mais en fait qui sont genre essentiels parce que j'avais tout le temps faim. Enfin, durant ça, c'est vraiment fil rouge. Je mangeais pas mal, enfin, j'avais pas ce cliché que c'était de la bouffe toute pourrie là en prison, ça c'était pas comme ça, c'était plutôt de la bonne nourriture, quoi, je crois, mais peu, et du coup j'avais tout le temps faim. Et en fait, et ouais, après c'était fou quand tout d'un coup j'ai compris et qu'en fait qu'on pouvait acheter, il y avait un kiosque qui passait comme ça dans les trucs et qu'on pouvait acheter. Des biscuits, des paquets de chips, des fruits et tout, des bananes. Et puis qu'en fait, il fallait remplir un petit formulaire à l'avance. Ou bien, par exemple, on pouvait aussi demander l'accès à des salles de ping-pong ou à aller jouer au basket en équipe, mais qu'il fallait aussi remplir un formulaire et tout. J'ai vraiment. J'ai appris tout plein de trucs. Au début de mon entraînement, j'ai reçu un guide. Un espèce de guide comme ça, du détenu. Mais dans la langue du pays où j'étais, et donc en fait j'ai rien compris, quoi, enfin je savais rien. Et ce qui était fou, c'est qu'après, le jour où je suis sorti de prison, dans le hall d'entrée de la prison, il y avait ce même guide en anglais. Et donc et moi je parlais toujours en anglais aux gardiens, enfin aux gardiens et gardiennes qui parlaient l'anglais, je leur parlais en anglais, avec les autres je parlais pas parce qu'on se comprenait pas. Et donc, tout le monde, et par exemple les psychologues aussi ils me parlaient en anglais quand ils voulaient faire leurs entretiens, enfin. Quand j'étais menacé parce que je voulais pas faire quelque chose, bah c'était aussi on me menaçait en anglais. Donc tout le monde était bien conscient et consciente que je parlais anglais. Mais on m'a pas donné ce truc en anglais. Donc c'est vraiment aussi une de ces très nombreuses comme ça nuisances administratives qu'on peut faire sur les détenus. Partager une réflexion que je me suis faite, enfin des réflexions que je me suis faites sur la prison, qu'est-ce que la prison en tant que contrainte sur un individu, et du coup forcément bah de ça découle comment on s'évade de ces différents types de contraintes, quoi, d'arriver à reconnaître, je pense pour chaque évasion il y a vraiment d'abord la nécessité de reconnaître quelle est la contrainte, quel est l'emprisonnement. Et là moi j'ai un peu ma réflexion, c'est de me dire, mais la prison, ok, on la voit toujours comme c'est vraiment un emprisonnement physique, c'est une contrainte physique. Donc on est comme ça emprisonné entre quatre murs, on n'a pas la liberté de nos mouvements, on n'a pas la liberté matérielle, dans le sens où on ne peut pas choisir qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on ne possède pas, quelle est notre activité. Et donc ça c'est vrai, mais ça serait vraiment, je pense, une erreur de croire que la prison, ça se limite à ça, comme type d'emprisonnement. C'est aussi beaucoup un emprisonnement social, en fait, dans le sens où on n'est pas libre de nos contacts sociaux. On a on vit une contrainte qui est posée sur les contacts qu'on a avec des autres gens, sur notre participation, par exemple, à un milieu social, sur. Enfin, la prison, tout est fait pour vraiment créer un isolement social, pour nous couper du reste des gens, de nos proches, mais même, ok, il y a les lettres quand l'administration vient nous les donner, mais par exemple, il y a extrêmement beaucoup de témoignages de familles de détenus qui racontent à quel point c'est compliqué d'aller visiter des détenus. Notamment quand c'est des, quand le pays est très grand et que par exemple toi tu t'es transféré à une prison qui est peut-être des centaines de kilomètres de là où vit ta famille, qu'elle peut venir que un jour par mois, enfin. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là qui est très fort, c'est l'aspect de la contrainte sur ta vie sociale. Et cette contrainte, elle va même jusqu'à ta libération. Et ça, moi, j'ai ressenti très fortement quand j'ai passé ces journées, du coup, ce moment de prison avec d'autres détenus et les liens qui s'en sont créés. Et quand tout d'un coup, j'ai été libéré. Alors que je m'y attendais pas, genre le matin, je pensais pas que le soir j'allais être dehors. Et donc c'était des adieux très sommaires et de nouveau, enfin ça a été une reproduction de la violence sur mon environnement social qui a été produite quand tout d'un coup j'étais extrait de ma vie quotidienne et de toutes les relations que j'avais, des gens que j'étais proche, j'étais extirpé de ça et en étant emprisonné. Cette violence est reproduite quand tout d'un coup j'ai été quoi, jeté en dehors de la prison et en perdant tous les contacts avec les personnes avec qui j'avais vécu des trucs intenses en prison, avec qui je m'étais ouvert et confié, eux s'étaient ouverts et confiés, enfin il y avait des liens qui se créaient. Et c'était intéressant aussi de remarquer quand je suis sorti. Donc d'abord j'ai ressenti cette coupure par rapport aux gens avec qui j'avais créé ce contact en prison et que je laissais un peu derrière moi. Mais après j'ai et après je me suis posé la question, ok donc maintenant je suis libre. Je me disais, ah bah voilà, je suis pas en prison donc je suis libre. Et avant de justement de réfléchir à ça, à cette notion en fait de très binaire aussi, de se dire en prison on est emprisonné et à l'extérieur de la prison on est libre. Alors qu'en vrai, c'est beaucoup beaucoup plus poreux que ça. Et heureusement, en prison on peut refuser d'être emprisonné, on peut être libre aussi en prison, on peut refuser certaines contraintes. Il y a énormément de luttes à l'intérieur des prisons, de la part des prisonniers et des prisonnières. Depuis toujours, quoi. Certaines qui sont très très documentées, d'autres moins, mais en fait, des mouvements de résistance à l'intérieur des prisons contre les conditions de détention, il y en a toujours, et c'est une forme d'évasion, parce qu'en fait, tu te réappropries ta capacité à agir. Et ça, c'est quelque chose dont la prison te dépossède. Donc, c'est vraiment une évasion de se la réapproprier. Si moi, j'étais resté dans cette idée de me dire, ok, maintenant j'arrête tout, un peu, ils m'ont eu, j'ai été brisé, je renonce à toute capacité de résistance face à ce qui me dérange, au système, je renonce à mes valeurs et tout. Je m'adapte à ce système. Ben en fait, j'aurais beau être libéré de la prison, j'aurais plus jamais été libre. Donc, je trouve que c'est. Ouais, la notion de liberté d'emprisonnement, finalement, va vraiment bien au-delà de la prison en tant qu'institution matérielle, construite de murs, quoi.
Vous venez d'écouter un épisode des Étoffes, un podcast réalisé par Laure Bétrice, Jill et le projet Évasion. Musique, Horizon Liquide. Retrouvez les autres épisodes sur les principales plateformes de podcast et sur www.lesétoffes.org. Et si vous aussi, vous souhaitez nous raconter vos histoires d'évasion, écrivez-nous à radioévasion@riseup.net.